as-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Boum!
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
Boum! De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum!
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 Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture.
Boom, boom, boom.
Un divertissement proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Boom, boom.
Chères auditrices, chers auditeurs, amis de la chanson, bonsoir. Il faut quand même le dire, on peut faire de la bonne chanson avec des arrangements électroniques. Le CD de Maud Lubeck est dans cette configuration. Mais au départ, ce qui nous a séduit, c'est sa voix, ce sont ses textes et ce sont, ben oui, ces arrangements, ces mélodies, ça vous va, Maud de Lubeck? Comment vous-même vous définiriez votre chanson, votre album?
Ben là, il a une couleur effectivement plutôt pop électronique, on va dire. Mais c'est assez nouveau pour moi. Au départ, c'est des morceaux que j'avais arrangés dans l'idée de rentrer en studio.
Oui.
Et il y avait beaucoup de cordes, de cuivres, des pianos, des batteries, enfin bref, tout ça. Et finalement, quand je me suis retrouvée à faire cet album chez moi, je me suis dit que j'allais revisiter ça, parce que je voulais pas d'un album qui soit finalement une pâle copie de ce que j'aurais pu faire en studio. Je voulais pas que ce soit un album qui sonne faux. Et du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu explorer les sons de mon ordinateur. Voilà, du coup, j'ai remplacé les cordes par des nappes de synthé, les batteries par des boîtes à rythme.
Le mieux, ce serait de vous écouter et j'ai choisi qu'on commence avec « J'oublie ».
Thank you.
Houellebecq. Bon, j'étais frappée par l'écriture, mais moi j'aime bien connaître un peu la vie des gens. C'est quoi votre parcours ?
Mon parcours,
hein. Une petite fiche signalétique.
Alors,
quand même.
Moi je suis née dans les années 70 à Valence.
Oui.
J'ai grandi dans le Var.
Oui.
À la campagne.
Vous êtes une sudiste, alors.
Absolument.
Lübeck, c'est votre nom parce que c'est.
Oui, c'est mon nom.
C'est le nom d'une ville d'Allemagne.
C'est ça, mais ça vient de là en fait. C'est mon arrière-grand-père qui venait de Russie en arrivant en France.
Oui, et qui est devenu gaulois.
Voilà, qui est devenu gaulois, s'est fait appeler Lübeck parce qu'il aimait la ville de Lübeck. D'ailleurs, il faudra que j'y aille un jour.
Oui, hein,
voilà.
C'est une grande ville de culture, oui. Lübeck, si je ne m'abuse. Alors, vous êtes dans le Var. Mm-hmm. Et
je
puis.
Je suis dans le Var. J'habite dans un petit village qui s'appelle Le Muy. Voilà, à la campagne.
On leur fait honneur, hein, on dit leur nom.
Les Muyois. Oui, Le Muy.
Voilà.
Et voilà, j'ai des parents kinésithérapeutes. Mm-hmm. Donc rien à voir avec la musique, mais il y avait quand même beaucoup d'instruments de musique à la maison.
Ah oui, il n'y avait pas seulement une discothèque, il y avait aussi des instruments.
Voilà.
Oui, là on commence à passer dans le spécifique.
C'est ça, guitare, synthé. Et moi, j'aimais toucher un petit peu à tout, mais j'ai pas eu de déclic à ce moment-là.
Le
déclic,
c'était votre terrain de jeu.
C'était mon terrain de jeu. Mm-hmm. Et le déclic est venu plus tard, donc à l'adolescence. Mm-hmm. Et j'ai un souvenir comme ça.
Vous êtes toujours dans votre village ou vous êtes passé dans une ville un peu plus grande ?
Non, je suis toujours dans le village.
Au lycée. Ok.
Toujours.
Donc, vous faites un petit trajet le matin pour aller à l'école.
Voilà, j'y vais en vélo. Enfin, je vais au collège en vélo, au lycée en bus, parce que le lycée était à Draguignan. Oui. Et voilà, donc l'adolescence, je me souviens de l'été de mes 13 ans où j'étais partie quelques jours chez mes grands-parents. Et j'étais partie sans le disque que j'avais besoin d'écouter en boucle. Oui. Voilà, parce que j'étais ado, qu'il y avait une musique qui me rappelait des souvenirs, etc.
C'était quel disque ?
C'est un disque de Fralipolipi.
Oui.
Voilà, et du coup, dès que j'avais 5 minutes, j'allais sur le piano de ma grand-mère pour
recréer les morceaux.
Voilà, je cherchais des notes. Mm-hmm. Et puis, bah, finalement, à force de chercher ces morceaux-là, j'ai fini par en trouver d'autres. Mm-hmm. Totalement inédit, en fait. C'était mes premières créations, on va dire. Et voilà, j'ai adoré découvrir
Vous vous amusez, vous créez pas, mais c'est si près.
Il y avait un germe de quelque chose. Et puis, surtout, de sentir que je pouvais m'exprimer au travers de la musique.
Quand est-ce que vous commencez à le faire écouter à vos parents, à vos amis, et puis même peut-être un peu au-delà de ce cercle d'amis ?
Ben alors, moi, en rentrant de ces vacances, c'est là que j'ai commencé à apprendre le piano. Oui. Et j'avais un petit magnétophone sur le piano, sur lequel je m'enregistrais dès qu'il y avait une musique un peu aboutie. Je l'enregistrais et effectivement, c'est là que j'ai commencé aussi à faire écouter ce que je faisais. Voilà, j'ai gardé la cassette d'ailleurs.
Et monter sur scène, quand est-ce que vous êtes
montée
sur scène ?
C'est venu beaucoup plus tard, c'est venu en 2008, après des années de maquettes.
Vous faites des études quand même à côté ?
Oui, j'ai fait des études de psychologie clinique, donc je suis psychologue clinicienne.
C'est bien pour comprendre le public.
Et même pour écrire.
Eros et Thanatos, c'est le moment.
Voilà, mais donc j'ai jamais rien fait de ce diplôme parce que je voulais pas m'installer dans quelque chose de confortable parce que très clairement, enfin assez vite, j'ai ressenti que c'était, je voulais faire ma vie de la musique. Et donc j'ai fait mes premières scènes en 2008. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps parce que c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur.
Tout le monde dort sur la plage, et moi, du bord de l'eau, je regarde le paysage, et j'ai trop chaud. Je trouve ça une très jolie versification, je dois vous dire, très naturelle.
Merci.
Et en même temps, la poésie, le vers, est quand même marque à l'oreille. C'est quoi l'histoire de cette chanson ?
Cette chanson, alors en fait... Enfin, il y a aussi l'album. Enfin, l'album Toi non plus parle d'une séparation. J'ai appelé ça en sous-titre d'ailleurs Chronique d'une séparation, et c'est un album que j'ai écrit au fil de ma séparation.
D'une rupture, oui.
Voilà, où je décris un peu toutes les étapes, l'avant, l'après, donc ça va de la disparition du désir au déménagement, et bref, tout ça.
De la vindicte au pardon,
voilà.
Si on peut pardonner.
Finalement, donc la noyée, elle vient parler de cette souffrance muette, enfin de cette période où on se bat un peu, enfin voilà, on se noie dans ses émotions et où les personnes autour n'ont pas forcément conscience de ce qu'on vit, tout simplement parce qu'on n'ose pas, on ne veut pas déranger. Ou...
Maude Lubeck, parole. Maude Lubeck, musique et tout le reste. On n'a plus qu'à écouter la noyée. Alors, ce que j'aimerais un petit peu savoir, on commence à savoir des choses sur votre apprentissage de la musique, c'est aussi l'écriture. Quel est votre rapport à l'écriture? Sinon de recopier, j'adore ça dans la médecine, c'est les descriptions de malades.
Ouais.
Je trouve que c'est comme des petits romans, des petites nouvelles, alors qu'on va chercher dans Kraft et Bing ou dans ce 1900 avec le monsieur qui met des corsets sous son uniforme de Hulan. C'est merveilleux. Mais donc votre apprentissage de l'écriture, ou je sais pas si je dis, où est-ce que vous êtes imprégné normalement en lisant des belles choses?
Oui, enfin, je sais que moi, le déclic que j'ai eu, parce qu'au départ, j'étais plus intéressée par la composition et je me suis mise à écrire des textes après avoir découvert Gainsbourg. Mm-hmm. Donc, j'avais 17 ans. Mm-hmm. Et je me souviens c'est la chanson Manon qui m'a marquée.
Mm-hmm. Et vous aviez tout de suite senti, oh, il y a de l'écriture là.
Ah oui. Donc, j'ai un peu tout écouté, un peu tout
analysé. Rejets, avec tout ça.
Voilà. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la chanson française. Donc j'ai eu mes périodes
francophones. Ça fait plus
francophone.
Ça fait un marché plus étendu.
Donc voilà, j'ai écouté du Barbara, du Brigitte Fontaine. J'ai écouté plein de monde.
Du William Scheller
aussi. Enfin, il y a eu tellement de monde que là, je vais perdre la moitié des noms. Mais ça a été un vrai apprentissage. Mais voilà, je suis totalement autodidacte. C'est à force d'écrire.
C'est votre cœur qui vous a mené.
C'est ça.
Dans le choix des chansons.
Et puis voilà, là, j'ai aussi mes méthodes d'écriture qui changent.
De texte en texte.
Qui s'affine.
Il y a ce qui arrive très vite et puis ce qui met 6 mois.
Par exemple. Mais moi, souvent, en fait, j'ai des scénarios en tête, j'ai des sensations. Je cherche l'angle d'attaque et une fois que je l'ai, ça va tout seul, en fait.
Encore.
Encore.
Racontez-moi l'histoire de la chanson.
Alors encore, c'est la deuxième chanson de l'album. C'est une sorte d'état des lieux, en fait, du couple. Je mets en scène, parce que c'est un duo que je chante avec la Féline, et je mets en scène comme ça deux personnes qui se font une série de reproches et qui, sur les refrains, se posent la question fondamentale de l'amour, à savoir, est-ce qu'elles s'aiment encore ?
J'aimerais me dire que tu m'aimes encore. Qui fait la vie, qui fait le mort. Alors, c'est le petit saut dans le passé. On part en 1936 et vous avez Lucienne Boyer, une des plus grandes chanteuses de l'époque, une chanteuse qui va avoir une vraie carrière internationale. Elle va chanter à New York, D'ailleurs, elle a commencé à chanter à New York. C'est les Américains qui ont fait une vedette. C'est des choses qui arrivent et c'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Je vous propose une chanson. Elle, quand même, s'aventure vers l'opérette. C'est un compositeur d'opérette allemand. Ça doit être une traduction d'une chanson. Et la chanson s'appelle Magigolette. Elle n'est pas une chanteuse réaliste, hein, c'est une chanteuse de charme. D'accord. Il y a ce mot, les chanteuses de charme, j'adorais ça, les chanteuses de charme. Mais elle se frotte un tout petit peu vers la chanson réaliste. Là, on est proche et c'est aussi ça qui me plaît.
Lorsque la nuit s'épanouit mystérieusement comme une fleur funèbre, le dernier bruit s'évanouit et la ville s'endort dans le deuil des ténèbres. Et c'est alors que dans l'ombre qui les protège, étouffant leur pas, parlant tout bas, la pâche et sa môme s'en vont sous le ciel lourd de neige, cachant au ras des murs leur étrange manège. Et le beau gars serrant dans ses bras sa gigolette, sa gigolette. Lui sourit et tendre lui dit, ma gigolette, ma gigolette, je te ferai jamais gagner le gros lot, mais comme fortune t'a ton judo, les rupins peuvent bien s'amener toujours, ça c'est la vraie amour. Sur le boulevard, il se fait tard, et le bourgeois craintif se rate vers sa demeure. Un jeune fêtard, au teint blafard, s'avance en frissonnant sous la bise qui pleure. Et c'est alors que dans l'ombre qui le protège, étouffant ses pas, on n'entend pas. Brusquement la vache se jette sur le gibier pris au piège. Un cri d'angoisse, un râle et du sang sur la neige. Et le beau gars serrant dans ses bras sa gigolette, sa gigolette. Lui sourit et tendre lui dit, ma gigolette, je viens te décrocher le gros lot, mais ta vraie fortune c'est Juno. Les rupins peuvent bien t'amener toujours, rien ne vaut la vraie amour.
Et voilà, et ça roule les airs. C'est étonnant comme les Américains exploitent leur fond de catalogue. Mmh. Cole Porter, vous avez Madonna qui chante très mal d'ailleurs Love for Sale. En France, on entend un peu du Bruant. Oui, il y a eu l'album de Bruel. Mm-hmm. Les gens connaissent en fait même pas l'histoire de l'art qu'ils pratiquent.
Puis voilà, c'est vrai que là, on est dans un répertoire que totalement, enfin que je ne connais absolument pas. Mm-hmm. Je crois que Piaf, c'est ce qu'il y a de plus loin.
Mm-hmm. Ça remonte quand même à, je crois, son premier 78 tours. Ça doit être de 32, 34.
Bon. Non, mais j'ai eu ma période Piaf, juste sur les grands classiques de Piaf. Hein. Oui.
Vous n'avez pas eu envie de chercher la petite chanson que les gens connaissent mal?
Non, j'ai pas eu cette curiosité.
On en était où ? Vous étiez, vous terminiez vos études de psychologie.
C'est ça.
Vous avez déjà donné des concerts à droite à gauche ?
Non, alors il s'est passé du temps entre mes études et les concerts.
Oui.
Voilà, enfin, il y a eu toute une période où je...
Qu'est-ce que vous avez fait après vos études ?
J'ai fait des petits boulots.
Voilà.
Faisant toujours à côté mes chansons, en continuant mon travail.
Mais en ne vous jetant pas vers un public ?
Non.
Vous aviez l'idée, je vais attendre, c'est ça ? J'attends le bon moment ? Il faut que ça mûrisse ?
Je pense qu'il aurait fallu qu'on vienne me chercher.
Voilà, ça n'existe pas, on vient de me chercher.
Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Mais après, les petits boulots, il y a un moment aussi où je me suis dit, bon, il faut arrêter ça. Donc j'ai commencé à faire j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de commencer à faire de la musique pour l'image. Mm-hmm. Des pubs, des illustrations sonores, des courts-métrages. Et puis, c'est là qu'est arrivé Internet et MySpace. Il y avait aussi le site des inrecuptibles qui s'appelait CQFD à l'époque, en fait, qui permettait à des artistes qui n'étaient pas... Qui n'avaient pas de label.
Voilà. Qui n'avaient pas le permis de chanter. Oui.
C'est ça, mais dans tous les cas, d'exposer des chansons. Et voilà, moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes. Et puis, un jour, il y a eu cette opportunité d'une première scène et j'y suis allée.
C'était quand et où ?
C'était au Divan du Monde.
Carrément ?
Mais oui.
Ah, vous êtes parisienne, là, vous avez...
Ah, mais moi,
vous avez abandonné vous avez abandonné votre sud.
Mais en fait, ça fait... Je suis arrivée à Paris à 20 ans.
En laissant complètement la culture sudiste derrière vous ou...
Oui, enfin, voilà.
Il y a quand même une musique, il y a quand même une langue.
Mais moi, mes parents sont parisiens, donc à l'origine...
Pas d'excuses.
Donc, voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu échappé sur les cultures varoises. Mais voilà, non, moi, ça fait longtemps que je suis à Paris.
Alalala, Cantal au cigalo. Alalala, Cantal au cocoute. Oui, allez-y. Donc, vous êtes à Paris.
Oui.
Et hop, vous vous retrouvez au Divan du Monde. Enfin, vous faites des répétitions quand même avant.
Je m'entraîne chez moi au piano-voix.
D'accord. Vous n'avez pas de musicien sur ce concert ?
Non, parce que on était une dizaine d'artistes à se produire dans cette soirée. J'avais 3-4 morceaux à jouer. Il fallait que tout soit très simple.
Non, c'est drôle, c'est que vous n'êtes pas exercé à faire des concerts devant votre famille, devant le voisin du dessus, plaf, directement le Divan du Monde à Pigalle.
J'étais toute tremblante.
Ah oui, j'imagine.
Mais
ou un peu inconsciente.
Non, je sais
non,
pas.
Non, non, tu n'étais pas inconsciente du tout.
Non, mais c'est passé, hein, ça s'est bien passé. Suite à ça, donc j'ai commencé à faire... Enfin, il y a eu quelques années comme ça où j'ai fait... pas mal de concerts sur Paris. J'ai eu une résidence aux Trois Baudets. J'ai joué dans différents endroits, principalement sur Paris, en fait. Et c'est à partir de la sortie de mon premier album, qui s'appelait La Fabrique, que j'ai commencé à jouer.
En quelle année ?
Ça, c'était en 2012.
Et vous avez commencé ?
À jouer en dehors de Paris. J'ai fait quelques premières parties, notamment celle de Dominique A.
Pas mal. Oui. Comment vous avez dégoté ça ? C'est pas donné à tout le monde.
Mais non, mais j'ai appris qu'il parlait de mon album en interview.
Waouh.
Voilà.
Waouh. Et alors une dame, on lui envoie des fleurs, mais Dominica, qu'est-ce qu'on peut lui envoyer quand il vous lance des fleurs ?
C'est ça. Du coup, j'ai réussi à avoir son adresse. Oui. Enfin bref, je lui ai envoyé un petit mot et j'ai appris qu'il aimait mon album, qu'il était même parti en vacances avec mon album. Il l'avait écouté aux États-Unis.
Wow.
Enfin bref.
Mais dans le désert de l'Arizona.
Mais c'est ça.
Sous un cactus.
Absolument.
Dominique A écoutait Maud Lubeck.
C'est ça. Du coup, voilà, c'est à la suite de ça que qui m'a invité à faire quelques premières parties.
Vous remarquez quand même qu'il y a quelque chose qui se passe entre pianoter chez soi, avec des chaussons aux pieds, et se retrouver sur scène. Qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous vous retrouvez sur scène ? La peur ?
Bah oui. Oui, enfin, oui, en fait, moi j'ai mis du temps à me débarrasser de la peur. Je crois qu'elle est, elle est partie le jour où j'ai fait ma première partie de Dominique A. Mmh. Où tout d'un coup le plaisir a pris le dessus.
La jouissance.
Ouais. Mmh. Je sais pas, j'avais l'impression d'être arrivée à un endroit. Mmh. Mais non, mais sinon c'est beaucoup la peur. Enfin bon, après voilà, il y a pas que ça aussi, hein, évidemment. Hein.
On va peut-être écouter une chanson, non ?
Oui.
Je vous propose d'écouter la coupure. J'ai fermé les rideaux, coupé l'arrivée d'eau, coupé le gaz, coupé le temps.
Cliner l'appartement.
Cliner l'appartement. Ça... Oui, ce barbarisme américain. Oui.
Voilà, donc ça parle de, en fait, ça parle du déménagement. Donc je décris un peu toutes ces étapes.
Rupture, donc, déménagement.
Déménagement, et j'avais envie que progressivement, on glisse vers... parce que quand je dis sur le refrain, je ne vois plus rien, j'ai coupé le courant, je voulais que progressivement, on comprenne que je parlais du courant émotionnel. Mm-hmm. Voilà, donc c'est une progression qui nous amène à ça.
La coupure, Maud Lubeck. Et ça termine de façon abrupte.
Mais absolument.
C'est bien ça.
Je coupe le courant.
Vous savez, nous sommes sur France Culture. L'émission s'appelle Chanson Boom et on parle de chansons. Et vous êtes Maud Lubeck, une jeune chanteuse très intéressante qui s'accompagne avec des machins électroniques. Bon, ça vaut pas un accordéon, mais quand même. Alors, vous allez un peu parler la chose que les artistes n'aiment pas. Quelles sont les chanteuses qui vous ont influencé, celle où vous êtes prêt à le dire et celle où vous ne voudriez pas que ça se sache.
Ah, oh non, je sais pas.
Françoise Hardy, on pense à Françoise Hardy beaucoup.
Oui, il y a eu elle.
Et même dans l'écriture, vous avez ce petit côté mystérieux qu'elle aime bien dans l'écriture.
Ça, je ne m'en rends pas compte. Mmh. Mais il y a eu, oui, Françoise Hardy. Et
Véronique Sanson.
Moi, j'adore son album Amoureuse. Mmh. Il y en a tellement. Françoise Hardy.
Les chanteuses américaines. J'écoutais beaucoup d'Américains ?
Oui,
assurez-vous, je vous jette pas dehors après votre réponse.
J'écoute aussi. En fait, moi, j'ai des périodes.
Sur tel artiste.
Une grande passion, mais vraiment.
Et ça tourne en boucle.
Ça tourne en boucle. Puis un jour, j'ai une espèce d'overdose et c'est fini. Mm-hmm. Par contre, c'est vraiment fini. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, il y en a eu plusieurs comme ça.
Ça peut vous laisser des choses dans la voix, quand même, de cette fréquentation en boucle.
Ça laisse des traces, évidemment. Mm-hmm. Après, je ne saurais pas dire quel artiste m'a le plus influencé. Mais
Parce que je n'irai pas vous mettre dans les murmureuses,
ouais.
les nymphettes murmureuses, toutes les... qui chantent comme ça et qui m'énervent prodigieusement, je dois dire. Vous frisez juste, mais vous ne tombez pas dedans.
Ouf.
Non plus, la voix reste très claire. Mm-hmm. On veut des noms.
Des noms.
Qui vous reconnaîtriez comme modèle
chant ?
Dans le chant.
Oh,
Quelle chanteuse auriez-vous aimé être ?
Oh là là. Mais déjà, je fais avec ma voix et avec qui je suis. C'est qu'on a déjà pu me parler d'une Charlotte Gainsbourg, hein. Mm-hmm. Mais qui, je pense, est peut-être un peu plus dans le souffle mm-hmm. que moi. Après, moi, c'est vrai que je ne me sens pas chanteuse au départ. Je me sens auteur, mm-hmm. compositeur, et j'interprète mes chansons.
D'accord.
Mais la voix, pour le coup, c'est pas quelque chose que je travaille forcément. Mm-hmm. En fait, je me mets surtout à le travailler à partir du moment où je commence à me produire sur scène et où mm-hmm. je passe des heures sur mon piano à travailler mon piano-voix. Mm-hmm. Et à ce moment-là, la voix se remet en route. Mais
vous êtes en train de me dire que la voix, d'une certaine manière, n'est pas maîtrisée, que vous la laissez partir un peu où elle veut. C'est ça ? Vous voyez, une chanteuse-chanteuse,
ouais.
elle maîtrise chaque millimètre de la vibration de sa corde vocale. Vous la laissez un peu aller, vos cordes vocales.
C'est ça, je crois que j'ai pas encore parfaitement intégré l'idée.
Non, mais ça peut être une façon de chanter très intéressante, au contraire.
Mais voilà, c'est
laisser quelque chose d'aléatoire, un petit peu dans la voix.
C'est ça, moi, c'est du spontané. Hein. Mm-hmm.
Un peu travaillé quand même depuis le temps.
Voilà, à force, mais j'ai pas vraiment de technique derrière.
Mais c'est le texte donc et la mélodie qui sont les guides de votre voix. C'est pas je vais essayer de chanter plus haut, plus fort, des fêlures.
Pas du tout.
Si on écoutait une chanson, L'imperméable, c'est quoi l'histoire ?
Alors ça parle de l'imperméabilité des sentiments. Mmh. Des émotions, enfin de cette période où on se coupe de ses émotions pour moins souffrir, mais où progressivement on se coupe un peu aussi de la vie, malheureusement. Mm-hmm. Mais bon, j'en parle pas de façon triste, hein. C'est vrai que j'ai l'impression de...
Vous n'êtes pas dans la lamentation.
Pas du tout.
Mais il y a quand même une petite plainte hein, qui passe... discrètement, un petit peu comme chez Lucienne Boyer. Je ne parle pas forcément de cette chanson, mais dans sa façon de chanter, il y avait une mm-hmm. plainte qu'on sentait sous la mousse, comme une rivière sous la mousse.
Ouais. Non, mais là, je parle de choses peut-être un petit peu tristes, mais en tous les cas, j'essaye de m'amuser avec les mots pour pas rentrer dans quelque chose de lourd, en tous les cas.
Dans mon imperméable, je suis imperméable.
Je ne sens rien de la pluie, coupée des intempéries.
Oui. Dans mon imperméable.
Je suis imperméable. Je ne sens rien de la vie quand vient le froid de grizzly.
Je suis imperméable.
Maud Lubeck.
Vous lisez de la poésie ?
J'en ai lu. Je n'en lis plus.
Mais... C'est important pour un auteur de chansons de lire de la poésie ?
Ben, ça l'a été au début, en fait. J'avais besoin de comprendre quelque chose. De comprendre comment ça marche. Enfin, je ne sais pas s'il y a une méthode, mais...
Et la poésie vous a donné quand même des pistes.
Oui. Et là, évidemment, je ne pourrais pas vous parler d'un auteur particulier parce que je n'ai plus accès...
C'était plutôt la poésie du 19e ?
Non, non, non.
Contemporaine aussi.
Plutôt contemporaine, plutôt tout ce qui était surréaliste en fait. Voilà, j'ai eu cette période, mais c'est quand j'avais une vingtaine d'années. Mais je ne lis plus de poésie.
Mais vous conseillez à des jeunes chanteurs de lire de la poésie, ça peut quand même donner des pistes pour écrire.
Ça dépend de si on veut faire de la chanson poétique. Oui, enfin moi, ça m'a aidé.
Jamais eu envie de prendre un poème et de vous l'approprier ?
Si, mais c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un ami qui écrivait des poèmes.
D'accord.
Et ça m'est arrivé
de mettre ses poèmes en musique.
De mettre ses poèmes en musique. Voilà.
Vous savez que c'est un des plus grands plaisirs. Sur la terre, c'est pour un auteur qu'une chanteuse s'empare d'un de ses textes et la chante.
Ah oui,
Aragon
oui.
disait que la mise en musique d'un poème pour en faire une chanson, c'était une des formes supérieures de la critique.
D'accord.
C'est joli.
C'est joli, oui.
Sur scène, racontez-moi un peu sur scène. Vous bougez beaucoup ou vous restez bloqué derrière votre piano ou votre synthétiseur?
Ben non, je bouge pas vraiment. Enfin, je suis en piano voix.
Mais il y a des gens au piano qui bougent.
Oui, c'est vrai.
Vous pas trop.
Moi pas trop, non.
Vous êtes un peu hiératique.
C'est ça.
En scène. C'est quoi le plus grand plaisir sur scène ?
Je suis pas montée sur scène depuis 3 ans.
Bon, c'est pas si loin que ça.
Mais si, c'est loin. C'est un petit peu difficile à décrire, en fait. C'est quand tout d'un coup, on devient le canal de cette chose, de cette chanson qui vit au travers soi et qui prend tout l'espace, comme ça. C'est une sensation que j'aime beaucoup, physiquement.
Est-ce que vous avez découvert le sens de certaines chansons que vous n'êtes pas rendu compte et que tout d'un coup, en la chantant, la chanson prend presque un autre sens parce que le public l'entend comme ça?
Moi, ça m'est arrivé de redécouvrir des chansons après coup, effectivement. Après, j'ai aussi le retour du public qui parfois me raconte son histoire de mes chansons.
C'est passionnant.
Et moi, j'adore. Finalement, plus c'est loin de ce que j'ai écrit, plus ça me plaît.
Je veux plus rire, racontez-moi.
Dans cette chanson, j'avais envie un petit peu de parler de ce qui se passe... dans une séparation, quand on a cette sensation d'être un petit peu à côté de soi. Moi, j'étais partie de l'idée du refrain qui dit je ne suis plus raccord à rien du tout, je suis plus accordée du tout. Et j'ai essayé de mettre ça en scène dans les mots, c'est-à-dire que le sujet n'est pas accordé avec le verbe, par exemple. Enfin, je plus rire, je soupire, je traînais au café. Voilà, je voulais illustrer ça, en fait, cette sensation d'être à côté.
C'est une des chansons qui est là le plus proche de la plainte, un peu à la plainte à la Louise Labbé.
Oui, c'est vrai que c'est une forme de plainte. C'est la chanson aussi un peu de la colère contre l'amour.
Maud Lubeck chante Maud Lubeck, je plus rire.
Je plus rire, je soupire, je traînais au café, je parlais sans rien dire, j'ai perdu le sujet, je plus rien voir autour, moi me foutre de tout, je trop pensais à vous, plus être là du tout, je suis plus raccord à rien. Je veux plus tomber d'amour.
Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta. Vous voulez aller où en chanson? Vous allez faire des concerts avec cet album?
Oui, alors je suis en train de tout revisiter au piano-voix. Mm-hmm. J'ai une première date chez Madame Arthur, mm-hmm. le 18 octobre.
Qui recommence une nouvelle carrière.
Voilà.
Qui parlait d'elle longtemps. Vous connaissez la chanson d'Yves Guibert quand même. D'accord.
Et voilà.
Ils essayent de le remonter un peu en cabaret chic.
Ils ont des soirées de
chansons.
De French. Enfin, chansons françaises.
Oui, ils ne pourraient pas le dire en russe, ça serait plus rigolo. Oui.
Donc voilà, j'ai cette première date. Et l'idée étant évidemment d'en faire d'autres.
Mm-hmm. Vous allez vers quoi? Vous avez peur déjà?
Ça commence, mais à la fois, c'est aussi assez excitant de...
Vous savez que Yvette Guilbert a chanté dans cette salle, c'est là qu'elle a fait ça. Vous ne savez pas qui est Yvette Guilbert, hein?
Si, je connais de nom.
Madame Arthur est une femme
voilà.
qui fit parler d'elle longtemps.
Voilà, là, je resitue voilà. tout de suite.
Voilà. Sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. La Bibliothèque nationale avait fait une très très belle exposition où on voyait qu'elle avait tous les artistes de Paris avec elle, qu'elle était vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Elle a chanté à New York. À l'époque, il fallait 3 mois de bateau. Voilà. 15 jours. Et toujours pas de gestes.
De gestes?
En chantant.
De gestes avec
oui,
les mains?
Avec les mains ou...
Moi, c'est-à-dire que je m'accompagne au piano, donc c'est toujours un petit peu difficile.
Oui,
hein.
vous regardez quand Barbara est au piano, c'est un peu comme Brassens, quand il est derrière sa guitare, ouais. tout passe dans les mimiques, ce qui ne veut pas dire qu'il grimace pour autant, mais il y a beaucoup de choses qui passent dans les mimiques du visage.
Oui, par le corps, même Véronique Sanson, par exemple, sur scène, elle est...
Oui. Voilà. Oh, il y a un truc que je détestais, c'est quand elle faisait... J'appelais ça tirer la chasse. À la fin de sa chasse, c'est un truc à l'américaine. À la fin de sa chasse, elle tire quelque chose d'en haut et elle descend. Et je trouvais ça, mais d'une. Non, d'autant plus qu'elle est quand même la classe mm-hmm. et le raffinement même. D'accord. Et tout d'un coup, quand elle faisait. Pouf,
se chasser l'image, ouais.
On dirait qu'elle tire la chasse. Vous n'allez pas tirer la chasse
non,
à la fin.
Je ne vais pas tirer la chasse.
Mais comment on termine un morceau quand on est au piano?
Comment on termine un morceau
Avec les mains. Comment les mains terminent le piano? Vous marquez en faisant remonter les mains?
Non, mais ça dépend. Ça dépend des morceaux. Mais je ne suis pas très...
Expansive, oui. Non, mais voilà, vous pouvez faire de l'épure. Hein.
Voilà, je suis dans l'épure, moi.
Je me rappelle, j'ai fait travailler... À Los Angeles, une chanteuse américaine qui voulait chanter des chansons de Brel. J'ai dit, vous savez, c'est pas parce que vous chantez une chanson française que vous devez faire les bras comme un moulin.
J'espère. Non, mais...
En fait, vous êtes timide, Maud.
C'est ça. Bec.
Pourquoi vous montez sur scène si vous êtes timide? Pour justement soigner votre timidité?
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Je pense que j'ai une vraie place sur scène. Enfin, en tous les cas, voilà, mes projets existent. Ouais, mais c'est bien aussi, la timidité, je pense. Mmh.
C'est un moteur. Il ne faut pas qu'elle paralyse, quoi, c'est tout.
Non, mais ça ne me paralyse pas quand je suis sur une scène. Moi, je suis concentrée, je suis dans mes morceaux. Et
vous connaissez la...
Ça se passe bien.
Cette histoire célèbre de Louis Jouvet, à qui une de ses élèves dit « Oh maître, je ne sais pas ce qu'il y a, mais moi je n'ai jamais le trac. Mm-hmm. » Et il lui dit « Ça viendra avec le talent.
Ah, » C'est joli.
Vous avez déjà un petit peu, vous.
C'est ça, mais je dois avoir beaucoup de talent alors, parce que j'ai beaucoup de trac.
C'est la fin, alors on va chanter la chanson qui dit à la fin. Vous me racontez un peu l'histoire. C'est la dernière chanson de l'album.
C'est ça, c'est la dernière chanson de l'album. C'est la chanson de la fin.
C'est le moment où on est presque triste de ne plus pleurer d'amour, c'est ça?
Non, c'est le moment où on est triste, où on se pose enfin en fait. On se pose enfin et on regarde, on rouvre le livre de l'histoire et on voit tout ce qu'on n'avait pas vu. Voilà, c'est un peu la période des regrets.
Aude Lubeck, je vous remercie d'être venue nous voir et d'avoir partagé quelques chansons de cet album.
Merci à vous.
Avec nous. Et on écoute à la fin.
À la fin, je ne voyais plus rien et je me sentais loin. À la fin, je survolais les pages et sautais les images.
L'album de Maude Lubeck, Toi non plus, est disponible chez Finaliste. Elle dispose d'un site internet maudelubeck.com et elle sera chez Madame Arthur, rue des Martyrs, à Paris, dans l'arrondissement de Pigalle, le 18 octobre. Thank you. réécouter, télécharger cette émission sur le site internet de France Culture. C'était Chanson Boom, Anaïs Isebaer, Pascal Bénard, Patrick Molinier, Hélène Azera. Bonne nuit à l'écoute de France Culture.